On va convier notre invité Alain Finkielkraut à une partie de Chifoumi. Alain Finkielkraut qui est aussi notre collègue puisque son émission Réplique est audible sur France Culture le samedi de 9h à 10h. Et puis on peut évidemment la podcaster sur le site de France Culture, franceculture.fr. Et Alain Finkielkraut publie une conversation, un échange épistolaire avec Elisabeth de Fontenay en terrain miné. C'est chez Stock, une réaction à ce que vient de dire Frédéric sur la primaire devenue bouc émissaire de la droite.
Sur cette question-là, je n'ai pas d'avis très intéressant. Je ne suis pas compétent. Et c'est pas parce que je me retrouve devant un micro que je dois pouvoir réagir à tout. C'est une tentation.
Donc vous n'êtes pas l'homme qui ne peut pas ne pas réagir.
Oui, mais alors justement,
il ne
faut pas céder à la tentation de s'exprimer, de faire croire qu'on est compétent sur tout. En revanche, je peux parler en effet de la droite, de son rapport aux intellectuels. C'est-à-dire, en effet, il n'y aura pas de primaire, mais Laurent Wauquiez est en passe de devenir le président du Parti des Républicains, peut-être donc le prochain candidat des Républicains à l'élection présidentielle, surtout s'il n'y a pas de primaire. Or, il se trouve que celui-ci m'a cité. Il m'a cité et avec d'autres intellectuels, en disant que nous pouvions être des références. Et là, immédiatement, mon compte était bon. Le directeur de Libération a publié une tribune pour dire « Vous voyez bien, en 2002, Daniel Lindenberg avait raison. Il avait dressé la première grande liste noire du 21e siècle. Il y a des intellectuels dangereux, réactionnaires, voire crypto-fascistes. » Donc voilà, je suis cité par Wauquiez, je suis crypto-fasciste. Il se trouve qu'Elisabeth Badinter, dans un autre texte de Wauquiez et cité également, ainsi que Marcel Gauchet. Alors, sommes-nous devenus de droite, voire d'extrême droite? Non, bien sûr. Il y a un climat idéologique complètement brouillé aujourd'hui.
Mais la ligne de Wauquiez, Alain Finkielkraut, vous, que pensez-vous de la ligne de Laurent Wauquiez? Comment vous situez-vous par rapport à cet homme, à ce qu'il dit?
Alors, je crois qu'il bénéficie d'un certain nombre de reniements de la gauche. Parce qu'on me dit, et même Elisabeth de Fontenay, que je suis passé à droite. Et donc, évidemment...
C'est ce qu'il s'entend, effectivement.
Voilà, il devient à ce moment-là, il y aura une convergence objective ou subjective, voire...
Ce qui n'est pas en soi une critique.
Non, c'est pas forcément une critique, mais je m'interroge tout de suite. Est-ce la gauche qui a changé? Où est-ce moi? Eh bien, moi, je pense que la gauche a changé. D'abord, elle était liée à l'école, et j'ai essayé de le montrer tout à l'heure, elle a détruit méthodiquement l'école, elle a délaissé, ou une partie d'entre elles a délaissé, la laïcité au nom de la lutte contre l'islamophobie, et les questions de sécurité au nom de la lutte contre la discrimination et la stigmatisation. La droite, évidemment, s'empare de ces sujets et plus large généralement de ce qu'un homme de gauche, Laurent Bouvet, appelle l'insécurité culturelle des Français. Je trouve que c'est très dommage. Quant à savoir si, pour ma part, je suis de droite, je suis conservateur, je répondrai plutôt en utilisant un autre terme, même si en effet ce n'est pas insultant d'être de droite ou d'être conservateur. Je me sens, si vous voulez, mon parti, s'il devait exister, serait celui d'une écologie généralisée. Sauver la terre, mais aussi sauver les lettres, sauver le verbe sauver plutôt que le verbe changer, sauver les paysages, sauver les campagnes. J'ai vu sur France 3 hier un reportage extraordinaire sur la ville de Tournus. Eh bien, à Tournus, on veut créer un énième hypermarché et on va pour cela sacrifier des centaines d'hectares ou des dizaines d'hectares de terres arables. Donc si vous voulez, la part agricole de la France ne cesse de se réduire au profit d'une urbanisation, d'une rurbanisation forcenée. Je crois qu'il faut y résister. Je ne suis pas sûr que la droite soit à même de le faire parce que elle est aussi prisonnière d'une vision économique du monde.
Juste sur Laurent Wauquiez, avant que je cède la parole à Frédéric Seitz, est-ce que cette ligne, puisqu'après tout, il peut effectivement vous convoquer dans ses discours, mais vous, est-ce que vous considérez que cet homme a une pensée commune avec vous?
Non, je ne le connais pas assez sa ligne pour répondre à cette question. Ce que je sais, c'est qu'il est absurde de vouloir diaboliser comme certains, à droite même, le font, ce qu'on appelle la ligne identitaire. Ça, l'identité nationale n'est pas une obscénité, n'est pas un gros mot. L'insécurité culturelle des Français ne doit pas être abandonnée au seul Front National. Quant à Laurent Wauquiez, je me méfie de l'opportunisme et de l'arrivisme qui, jusqu'à présent, ont caractérisé sa carrière. Mais
il a eu une décision quand même étonnante il y a quelques mois à Laurent Wauquiez. Il a décidé de diminuer la subvention à la maison des enfants d'Izieux. Alors malheureusement, les enfants d'Izieux n'ont pas besoin de subventions, n'en ont plus besoin, mais on imagine qu'il y avait une symbolique derrière, ou alors d'ailleurs on préférerait ne pas imaginer. Quand même, ça doit vous faire réagir.
Si c'est vrai, c'est très grave, et en effet. Mais là, il faudrait élargir la question. Il faudrait s'interroger aussi sur ce qui se passe en Allemagne. Alors, je ne sais pas quelles sont les motivations de Wauquiez. Oublions-le un instant. Mais le cauchemar qui nous attend, ce serait, en Europe comme aux États-Unis, une sorte de face-à-face entre le politiquement correct et le politiquement abject qui ne cesserait de se renforcer l'un à l'autre au détriment d'inquiétudes et de soucis qui par ailleurs sont extrêmement légitimes. Si nous tombons dans cet affrontement, alors ce serait vraiment à désespérer de tout.
Frédéric Seitz.
Vous pensez par exemple également au résultat qu'il y avait eu en Autriche avec un deuxième tour entre l'extrême droite d'un côté et les Verts de l'autre ?
Oui, par exemple. C'est-à-dire, l'Autriche, l'Allemagne aussi, une extrême droite, nous dit-on, a fait son entrée au Parlement, au Bundestag. Moi, je me méfie toujours de la qualification d'extrême droite. Je me dis, il y a des thèmes, des inquiétudes qu'il ne faut pas diaboliser. Mais quand je m'aperçois que certains membres de cette droite sont conspirationnistes, d'autres négationnistes, que même le chef spirituel veut en revenir sur les rapports privilégiés de l'Allemagne et d'Israël, je me dis, il se passe quelque chose d'extrêmement grave. D'ailleurs, la fondatrice de ce parti a déjà claqué la porte. Et là, je me dis, mais c'est terrible. Que va-t-il se passer? Parce que d'un autre côté, il y a effectivement un choc des cultures. Oui, il y a des gens en France, dans certains quartiers, dans certaines villes, qui se sentent en France comme dans une terre étrangère. Il faut prendre en charge l'angoisse qui est la leur. Il faut s'interroger sur les raisons pour lesquelles, dans de plus en plus d'endroits, les professeurs vont faire cours la peur au ventre. Moi, j'ai commencé ma carrière dans les années 70, dans un lycée technique à Loré de Beauvais, mais j'avais pas peur. Ma seule peur en allant en classe, c'était de rater mon cours. On m'engueulait pas parce que je faisais un cours magistral. Cours magistral, c'était à l'époque un pléonasme. Je faisais mon cours, quelquefois ça marchait, quelquefois ça ne marchait pas. Mais c'était pas un sport de combat, ça l'est devenu. Donc tout ça, il faut prendre en compte, mais si c'est le politiquement abject qui s'en saisit, alors on est foutu.
Frédéric Seitz.
Question sur la place de l'intellectuel dans le débat public, puisque vous l'évoquiez un petit peu tout à l'heure. Quand un responsable public demande à vous consulter, à dialoguer avec vous pour nourrir sa réflexion, est-ce que votre position est de dire forcément oui parce que vous souhaitez, en un sens, peser sur le débat d'idées en interne, ou bien est-ce que vous réservez le droit de refuser ou d'accepter avec parcimonie, justement pour éviter d'être soit cité, soit instrumentalisé, soit récupéré, soit en tout cas mis en avant par cette personnalité?
Non, ce n'est pas la manière qui serait la mienne de peser sur le débat politique, c'est d'intervenir, c'est d'écrire des articles ou des livres. Et je le fais parce que, contrairement à ce que tout le monde pense, je ne suis pas décliniste. Les vrais déclinistes sont les progressistes qui prennent une marche vers l'abîme pour une marche en avant. Moi, je ne me résigne pas à ce qui se passe, donc en effet, je milite, j'interviens, notamment sur la question de l'école. Vis-à-vis des hommes politiques, c'est un peu différent. Là, c'est une sorte de réflexe républicain. Je me dis, s'ils veulent discuter avec moi, qui suis-je pour dire non? Donc, ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive, je l'accepte. Et des gens de droite ont demandé à parler avec moi, je l'ai fait, des gens de gauche aussi, notamment à plusieurs reprises Manuel Valls, et la manière dont il a été balayé m'attriste, parce que c'était pas seulement le social-libéralisme Manuel Valls, c'était une certaine idée de la gauche républicaine, de la laïcité, c'était le courage même d'employer le mot d'identité, et tout cela n'existe plus à gauche. Donc, la victoire de ce que certains appellent l'islamo-gauchisme sur la gauche républicaine me paraît une véritable catastrophe. Mais même si un représentant de la France insoumise... J'ai parlé avec Mélenchon. Nous avons déjeuné ensemble une fois, ça s'est bien passé, et nous l'avons même bien passé, oui, nous avons discuté, et nous avons même pris la décision commune, qui n'a pas été suivie des faits, d'aller dans à la ferme des mille vaches pour protester ensemble contre l'horreur de l'élevage industriel. Par ailleurs, nous avons des divergences abyssales.
C'était il y a longtemps, ça ?
C'était il y a plusieurs mois. C'était D'accord. à peu près un an.
Donc le projet n'est peut-être pas complètement annulé.
Peut-être qu'il allait aller avec Jean-Luc Mélenchon sur le chemin. Beaucoup de choses à nous dire et je lui expliquerai que non, la rue n'a pas abattu les nazis, la rue a mis Hitler au pouvoir.
En tout cas, sur le progressisme, puisqu'en lisant le livre que vous publiez avec Elisabeth de Fontenay en terrain miné, il y a effectivement le progressisme comme pierre d'achoppement. Cette volonté de nouveau, c'est d'ailleurs le titre de la revue papier, la revue de France Culture qui vient de sortir. Pourquoi voulons-nous du nouveau ? Une revue dont vous êtes l'un des contributeurs, Alain Finkielkraut. Je me suis dit que finalement, un bon argument en faveur du progressisme pouvait être formulé par Yuval Noah Harari, qui est donc un historien israélien, qui a écrit un best-seller international, Sapiens, qui publie Homo Deus en ce moment. Yuval Noah Harari était l'invité d'Olivia Gesbert à la grande table du 19 septembre dernier. Écoutez-le, Alain Finkielkraut.
Le rôle de la religion est en train de rétrécir sans cesse.
You just need to think about the last 100 years.
Réfléchissez au siècle qui vient de s'écouler.
Ask yourself, what were the most important inventions
quelles sont
and
les inventions et les découvertes les plus intéressantes et les nouvelles idées du siècle passé.
So you have a long list.
Donc il y a une liste assez longue. Il y a les antibiotiques,
and you have computers,
les ordinateurs,
and you have, nuclear energy,
l'énergie nucléaire,
and you have feminism,
le féminisme,
and you have, human rights.
Les droits de l'homme.
Now ask yourself,
maintenant,
what were the most important inventions
quelles étaient les inventions les plus importantes et les idées les plus importantes des religions traditionnelles.
What did the priests and
qu'est-ce
the imams
que les prêtres,
and the
les imams, les rabbins ont découvert au cours du dernier siècle
which changed the world.
Qui a changé le monde.
I can't think of anything.
Moi, je trouve rien.
There is no list.
Il n'y a pas de liste.
There is nothing.
Il n'y a rien
the priests or
que les prêtres, les rabbins
aient
découvert au cours du siècle passé.
Yuval Noah Harari, l'une des idées qu'il développe dans Homo Deus, Alain Finkielkraut, consiste à dire il y a aujourd'hui une situation qui est absolument inédite parce que l'informatique n'est pas seulement une technique, c'est une méta-technique. Cette technique est donc en train de changer le monde et donc avec les outils anciens de pensée, avec les morales ancienne, il n'est pas possible de faire face à ce phénomène.
De toute façon, on fait face à ce phénomène avec notre cerveau, notre intelligence et aussi notre mémoire. À mes yeux, Mark Zuckerberg et Bill Gates n'ont pas périmé Platon. Il suffit d'ailleurs de les entendre pour le comprendre. Donc, premièrement. Deuxièmement, ce changement doit-il être accueilli comme un miracle ? Si nous revenons à la question de l'école, Simone Veil disait que le principal but de l'école, la principale finalité, c'était la formation de la faculté d'attention. L'attention des élèves est de plus en plus dispersée, maintenant que tout leur est tout le temps disponible, d'où la proposition, d'ailleurs, de Jean-Michel Blanquer, de supprimer les portables dans les classes. Cette immédiateté est extrêmement dangereuse et elle nous tue. Il faut quand même avoir le droit de le dire. Et d'ailleurs, les cadres dirigeants des GAFA, de toutes ces entreprises qui ont métamorphosé le monde, sont des gens malins. Ils mettent leurs enfants dans des écoles déconnectées. Pas de tablettes, pas de tableau numérique, rien. Un tableau noir, des craies, des stylos, des livres. Ils savent à quelle addiction ils soumettent leurs clients. Ils veulent en préserver leurs enfants. Et moi, je plaide, je demande une école déconnectée pour tous. C'est ça le sens que j'ai de l'égalité. Et je voudrais vous inviter à voir un film absolument extraordinaire, un film russe qui s'appelle « Faute d'amour ». C'est le réalisateur de Léviathan, du bannissement d'Elena, le plus grand cinéaste russe actuel, dont à l'instant le nom m'échappe. Eh bien, c'est l'histoire de la déchirure terrifiante d'un couple dans la Russie d'aujourd'hui. Mais pour montrer le vide de cette Russie, eh bien, il a un leitmotiv, le portable que ces héros, ces tristes protagonistes ont toujours à la main, et c'est le nouvel âge du portable. C'est pas simplement le portable dans lequel on babille et qui transforme les rues en immense asile de psychotiques. Les gens avec les fils qui leur dégoulinent dans les oreilles, qui crient en croisant les passants, et c'est une situation vraiment terrible qui rend d'ailleurs définitivement caduque le poème de Baudelaire à une passante, au toi que j'eusse aimé, au toi qui le savais. Elle ne le sait plus puisqu'elle parle à son portable. Mais surtout là, il parle pas. Ils tapotent, ou il ou elle tapote, ou font défiler des images, la bouche entrouverte, le visage, l'expression à moitié hébétée. Alors, en effet, il y a une hébétude aujourd'hui qui se répand grâce aux nouvelles technologies. Je ne crois pas que ça fasse de l'homme un dieu.
Oui, mais il y a malgré tout des phénomènes nouveaux. Vous avez donc un jugement de valeur qui est un jugement de valeur, comme on l'entend, très critique sur ces nouveaux phénomènes. Si on prend un penseur du conservatisme en France, par exemple Montesquieu. Montesquieu était le conservatisme dans sa plus noble acception. C'était quelqu'un qui expliquait qu'il ne fallait toucher aux lois existantes que d'une main tremblante. Mais dans le même temps, il pensait les phénomènes nouveaux et il en souhaitait parfois l'avènement, par exemple dans un chapitre célèbre de l'esprit des lois du crime contre nature, il explique qu'il faut faire évoluer les mœurs, qu'il y a par exemple des accusations de magie, d'hérésie qui ne tiennent pas. Il est à l'écoute de la société. Est-ce qu'il y a des phénomènes nouveaux, Alain Finkielkraut, que vous ne jugez pas négativement, puisque finalement on n'est pas condamné à rejeter en bloc la nouveauté?
Non, je ne crois pas qu'il faille rejeter en bloc la nouveauté. Je crois que il y a des événements aussi qui sont de l'ordre du miracle. À chaque fois qu'une grande œuvre est publiée dans quelque registre que ce soit, c'est un miracle. C'est une chose absolument imprévue. Cela arrive tous les jours. Je crois simplement qu'il faut que la société soit mise dans la situation d'accueillir intelligemment cette nouveauté. Et là, j'en reviens à l'école. Hannah Arendt, qui est la véritable référence de ce que Michel Dussault considère comme d'affreux réactionnaires, et qui dit « L'école doit être conservatrice pour permettre à l'enfant, à chaque enfant, d'être ce qu'il peut être, de commencer quelque chose de neuf, de développer ses capacités révolutionnaires. » Et c'est saint Augustin qui disait, avant, pour qu'il y ait, l'homme a été créé pour qu'il y ait un commencement. Avant la création de l'homme, il n'y avait pas quelque chose comme un commencement. Donc, en effet, l'émergence du nouveau doit toujours pouvoir être accueillie, parce que d'une certaine manière, c'est l'humanité même.
Mais là-dessus, il peut y avoir consensus à partir du moment où finalement, il s'agit d'être rétrograde, comme le disait Paul Valéry sur l'école, parce que finalement, il y a énormément d'auteurs qui sont d'accord avec vous, Alain Finkielkraut, pour dire l'école doit être rétrograde et c'est comme ça qu'elle apprend le nouveau. Et c'est uniquement un problème de moyens, c'est pas un problème de finalité. Donc vous êtes d'accord avec Michel Lussault sur le fait de dire qu'il faut finalement aboutir au nouveau.
Au contraire, au contraire, c'est-à-dire que on a développé de manière délirante les enseignements pratiques interdisciplinaires, les activités périscolaires, qui sont simplement la propagande de l'esprit du temps, alors que l'école doit permettre de faire le mur du présent, pour dépayser les élèves. Voilà le rôle qu'elle doit jouer, et que pour des gens que Michel Dussault et d'autres ont complètement oublié.
Donc vos propositions aujourd'hui, lorsque vous évoquez avec Jean-Michel Blanquer, pardon, le nouveau ministre de l'Éducation, la manière dont l'école doit évoluer, il semble y avoir une proximité intellectuelle entre vous et le nouveau ministre Alain Finkielkraut.
Je ne sais pas. Je pense qu'il se heurtera à de très nombreux obstacles, à une, si vous voulez, parce que vous parliez de nouveau. L'une des folies de ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est de croire que l'enfant pouvait être d'emblée l'acteur de sa propre éducation et de miser, plutôt que sur la mémoire, sur la créativité. C'était d'ailleurs l'une des décisions de la commission Attali pour la libération de la croissance française, dont Emmanuel Macron était le rapporteur général. Et je vois, avec la nomination de Jean-Michel Blanquer, remettre en selle, si vous voulez, l'application et la mémoire. Donc, peut-être notre président de la République est-il en voie de désatalisation, et c'est une excellente nouvelle. Et moi, je distingue le nouveau comme événement, des processus technologiques dans lesquelles nous sommes emportés. Et les écrans relèvent beaucoup plus du processus que de la nouveauté, au sens que vous défendez, Guillaume Herner.
Désatalisation, c'est un nouveau néologisme. C'est plus facile à dire que désarafatisation, mais la désarafatisation, on en parle très peu actuellement. Alain Finkielkraut, merci de nous avoir exposé votre point de vue sur l'école. Votre livre avec Elisabeth de Fontenay, En terrain miné. Et puis on vous retrouve également, Alain Finkielkraut, dans Papier, la nouvelle revue de France Culture, c'est le numéro 22, elle vient de sortir. Et il y a à la fois des choses sur la nouveauté, voyez Alain, et sur Ovid. Il est dit qu'il faut relire Ovid, puisque on fait les deux choses à la fois sur France Culture.